C'est un choix de notre prochain invité, je pense.
Tout à fait, M. La Rochelle. Vous l'avez écouté beaucoup, Jean-Pierre Ferland?
Oui, à une époque, je l'aimais beaucoup quand j'étais... Ma jeunesse a été pas mal bercée par... J'aimais surtout Jaune et Soleil.
Oui, deux grands classiques.
Oui, tout à fait.
Alors, on passe à un autre appel, si je puis dire. La semaine dernière, vous avez publié une opinion dans la presse Plus. C'est pas la première fois qu'on vous lit dans la presse, M. La Rochelle. Et cette opinion, donc, dans laquelle vous appeliez le Canada à faire preuve d'initiative dans le dossier de la guerre à Gaza. Pourquoi maintenant?
Bien, de manière générale, on peut dire que le gouvernement de Justin Trudeau n'a pas fait de la politique étrangère une priorité, comme il l'avait promis lors de son premier mandat. Mais je pense qu'avec la guerre qu'on voit maintenant à Gaza et les effroyables destructions et pertes de vie que l'on constate tous les jours, le Canada pourrait en faire davantage pour améliorer la situation des Palestiniens, pas seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie.
Qu'est-ce qui vous a inspiré votre texte, au juste?
Ben, en fait, c'est la récente attaque, là, il y a quoi, une dizaine de jours, je pense, de l'attaque iranienne contre Israël, Téhéran réagissait à la destruction de son consulat à Damas, en Syrie. Et l'appui de drones et de missiles iraniens sur Israël était un précédent entre ces deux nations, mais ce n'était pas la première fois qu'un autre pays de la région attaquait directement Israël. On se rappellera par exemple qu'en 1991, Saddam Hussein avait lancé ses missiles Scud irakiens sur l'État hébreu. Imprécis, il tombait un peu partout, faisant un peu de dommages. On craignait à l'époque qu'il soit doté de l'arme chimique, ce qui ne fut pas le cas. À l'époque, les Israéliens avaient absorbé le choc, sachant que la coalition internationale dont faisait partie le Canada d'ailleurs, se chargerait d'expulser les Irakiens du Koweït dans le cadre de l'opération Tempête du désert. Suite à cette guerre, le processus de paix s'était amorcé, notamment avec la conférence de Madrid qui mena plus tard aux accords d'Oslo pour une solution au conflit israélo-palestinien.
Mais c'était une toute autre époque, M. La Rochelle.
Oui, le mur de Berlin venait de s'effondrer et ce qu'on appelait la Pax Americana avait le vent dans les voiles. Ce n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. On voit par exemple que le président Biden a bien du mal à contrôler le premier ministre israélien Netanyahou. Le système politique américain semble passablement dysfonctionnel, incapable de rassurer les alliés sur la continuité de la politique étrangère américaine, exacerbé par un possible retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Facteur aggravant, on assiste à la lente érosion de l'infrastructure légale internationale issue de la Seconde Guerre mondiale, sous le coup de boutoir de ce qu'on appelle le Sud global, mais pas seulement, parce que le comportement des forces israéliennes à Gaza et leur attaque d'une entité diplomatique à Damas sape aussi la crédibilité de ce système. De même que l'approche différenciée de nos capitales quand il s'agit de l'Ukraine et de Gaza, ce qu'on appelle le deux poids, deux mesures. La scène mondiale souffre aussi de la compétition accrue entre deux blocs. D'un côté, celui des démocraties occidentales et quelques autres comme le Japon, et de l'autre, la Chine, la Russie et leurs alliés qui souhaitent instaurer un nouvel ordre international. Israël et l'Iran sont d'ailleurs devenus la preuve de cette nouvelle réalité mondiale, Israël étant vu comme faisant partie du premier groupe et l'Iran du deuxième. Aussi, la communauté internationale pouvait compter sur les Nations unies pour aider à la résolution des conflits et mettre en place les instruments permettant la paix. Mais actuellement victime des divisions internationales, cette organisation a perdu son influence politique et ressemble de plus en plus à la Société des Nations qui s'était révélée impuissante à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Ajoutons à ce constat l'absence de perspective globale pour un règlement de paix et pour assurer la stabilité au Proche-Orient.
C'est ici donc que le Canada pourrait jouer un rôle constructif, selon vous?
Je pense, oui. Sur Gaza, d'abord, on peut saluer quelques gestes positifs du gouvernement Trudeau, comme le retour du financement de l'UNRWA, cette organisation onusienne qui fait un travail exceptionnel et remarquable pour les Palestiniens, ou la suspension des ventes d'armes à Israël. Mais dans ce dossier, Ottawa se satisfait trop souvent des communiqués du G7 peu imaginatifs. C'est en fait un peu notre feuille de vigne diplomatique. Rappelons-nous que le pays, le Canada, a déjà servi de pont entre les Israéliens et les Palestiniens. Ce fut le cas, par exemple, lorsque le Canada était à la tête de l'important groupe de travail sur les réfugiés du processus d'Oslo. Le Canada aussi est impliqué dans des contacts informels entre Palestiniens et Israéliens par la suite. Le Canada pourrait jouer un rôle de premier plan, par exemple, dans la reconstruction de Gaza et la formation d'institutions palestiniennes crédibles, avec nos partenaires internationaux habituels, mais aussi les ONG pertinentes et les Nations unies. Notre diplomatie, je pense, pourrait aussi faire preuve d'initiative novatrice pour favoriser la mise en place de la solution des deux États qui vivraient en paix côte à côte, la Palestine et Israël. À ce stade, c'est la seule option qui est quasi consensuelle, à l'exception du cabinet Netanyahou. Selon les sondages, une large partie de l'opinion publique israélienne qu'il faudra convaincre. À mon avis, le Canada devrait dès maintenant commencer à stimuler la réflexion, bâtir une coalition internationale sur ce à quoi pourrait ressembler en pratique la solution des deux États, les frontières, les structures politiques et économiques, le sort des réfugiés, le désarmement de la Palestine, etc. Cela pourrait passer par des conférences, la préparation de documents de réflexion, des tables rondes, notamment avec des membres des communautés concernées au Canada. Il faut aussi que le gouvernement canadien reconnaisse la Palestine. Notre contribution pourrait être que les deux États, Palestine et Israël, deviennent autre chose qu'un vague slogan, mais une réalité et un objectif commun pour la communauté internationale. Bien sûr, ce processus sera long et rempli d'obstacles, et le Canada ne peut pas faire ça tout seul. Mais avec son réseau d'alliés et ses diplomates qui ne demandent pas mieux que d'être utilisés intelligemment, c'est, selon moi, une carte qui mérite d'être jouée.
Mais il faut trouver à Ottawa la volonté politique et le courage de se lancer dans pareil projet.
Oui, puis c'est pas évident actuellement, mais le mouvement citoyen qui s'active présentement pour mettre un terme à la tragédie gazaoui devrait maintenir la pression pour l'avenir de cette enclave et plus largement celui de tout le Moyen-Orient. Le retour à une situation d'avant l'assaut du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël est tout simplement impossible.
Le Canada va présider le G7 à compter de janvier prochain, donc 2025. Ça pourrait servir à mettre à profit la stratégie canadienne que vous proposez.
Bien sûr, et en tous les cas, ce sera un moyen de remettre notre pays sur le devant de la scène internationale. Selon moi, il est grand temps.
François Larochelle, ancien diplomate canadien et fellow à l'Institut d'études internationales de Montréal. C'est à l'UQAM?
C'est ça.
Merci beaucoup. À la prochaine.
Merci, au revoir.